Radio Grenouille, cuisine en friche, 10 minutes, 10 minutes, cuisine en friche, 10 minutes.
10 minutes avec...
Denis Léron, vous êtes chercheur à l'INSERM, expert de l'alimentation méditerranéenne, vice-président de la Fédération européenne des sociétés de nutrition. Et donc, vous intervenez à Cuisine en Friche pour deux tables rondes. La première intitulée « Sommes-nous en capacité de nous nourrir ?» Alors, une première question, est-ce que malgré la production agricole intensive, est-ce qu'il y a un risque de ne plus pouvoir alimenter la planète ou plusieurs pays ?
Oui, en fait, bon, on est dans le contexte de la Méditerranée. Hein. C'est dans ce cadre qu'on a inscrit nos tables rondes. Donc, on va parler de la Méditerranée plutôt que du monde entier parce que c'est un peu moins compliqué et puis c'est plus proche de nous. Donc, au niveau du bassin méditerranéen, effectivement, il y a des enjeux alimentaires extrêmement importants de différents niveaux. Dans les pays riches du Nord, on va dire comme ça, effectivement, on a une forte capacité de production, mais qui est extrêmement dépendante de l'énergie, de l'approvisionnement en engrais. Donc une agriculture dont on sait qu'elle n'est pas durable. Et on sait que dans les décennies qui viennent, on ne pourra plus produire comme ça. Et dans les pays du sud ou de l'est du bassin méditerranéen, qui sont beaucoup moins développés industriellement, il y a des gros problèmes de production agricole. C'est-à-dire qu'un pays comme l'Algérie ne produit que 10% de sa nourriture. Et dépend donc quasiment totalement des importations.
Donc on est dépendant des importations soit en matière première, enfin en énergie pour produire de l'engrais, soit carrément en matière première agricole.
Voilà, donc en fait, si on fait le bilan global, il n'est pas du tout bon, malgré les apparences et l'apparente opulence dans nos pays comme la France. Et en fait, on est dans une situation extrêmement fragile et critique. Et on sait qu'on va avoir des échéances aussi de changement climatique très importantes. Et on sait que le bassin méditerranéen va être particulièrement... ciblés par ces changements climatiques. Donc il faut se préparer au futur.
Le futur, c'est à l'horizon de quelques décennies, d'un siècle ?
Ah non, le futur, c'est il faut se mettre en route tout de suite, parce que les échéances, c'est de 2020, 2030, c'est bien avant 2050.
Donc c'est très rapproché, mais est-ce qu'on a le temps d'inverser la tendance, vu le délai court ?
Ah ben le temps, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut préparer l'avenir, faute de quoi on va au-delà de situations qui vont être extrêmement difficiles. Donc en fait, c'est l'objet de la table ronde. Hein. Les trois experts qui vont intervenir connaissent bien le sujet. En particulier Martine Padilla de Montpellier, de l'Institut agronomique méditerranéen, connaît très très bien la situation de la production et de la consommation alimentaire dans le bassin méditerranéen, et donc va faire un tableau en fait de la situation actuelle. Elle va un peu développer ce que je viens de dire en fait, où on en est aujourd'hui, avec les points forts et les points faibles, mais il y a beaucoup de points faibles. Et puis la deuxième intervention sera par Philippe Pointereau, qui lui est un expert en prospective. Et donc en fait, son organisation Sol Agro de Toulouse a fait un scénario pour la France pour 2050, de façon à combiner à la fois les impératifs climatiques, la réduction des gaz à effet de serre, les contraintes énergétiques et climatiques, et la nécessité de se nourrir.
Les pistes pour sortir de l'étau, c'est la production de proximité, l'utilisation d'énergies renouvelables, c'est ça ce qui peut dénouer la difficulté ?
Oui, mais donc c'est à la fois dans les endroits où on ne produit pas assez aujourd'hui, produire plus, et dans les endroits où on produit intensivement, comme l'Europe du Sud, produire autrement. C'est les seules solutions de sortir des verrous actuels. Et donc ça, en gros, il y a un point commun à tout ça, c'est développer des stratégies, disons, d'agroécologie. Le ministre de l'Agriculture français en a parlé récemment, hein, c'est l'objectif maintenant, parce qu'en fait, c'est la seule façon d'envisager de produire en fonction des contraintes climatiques, en réduisant les gaz à effet de serre, en respectant l'environnement, et en donnant aux consommateurs des aliments en quantité suffisante, mais aussi en qualité suffisante, et aussi bien au nord qu'au sud de la Méditerranée.
Est-ce qu'au niveau européen, qui coordonne la politique agricole, on a pris conscience de cette difficulté-là, ou pour le moment, il y a encore une phase de déni ?
On est en bonne partie dans le déni parce qu'il y a des lobbies tellement puissants que c'est extrêmement difficile de faire évoluer les choses. Le commissaire européen en charge de l'agriculture à la Commission européenne avait fait des propositions très novatrices pour ce qu'on a appelé pour verdir la PAC. Et en fait, pratiquement beaucoup de ces mesures ont été rognées au fil des discussions au niveau européen. Parce que les lobbies ont été très puissants au niveau de la réforme de la PAC. Et donc en France, on espère quand même qu'il va pouvoir y avoir un certain nombre de mesures qui vont dans le sens de favoriser ces méthodes de production agroécologique qui sont maintenant indispensables.
pour les pays du sud de la Méditerranée, est-ce qu'on peut voir un virage vers l'agroécologie sans qu'il y ait justement un changement aussi dans la consommation au nord et dans les façons de produire du nord ?
Ils ont un virage majeur à faire dans ces pays-là, c'est produire. Puisque pour le moment, ils sont en déficit de production de façon extrême. Hein. C'est vrai pour pratiquement tous les pays du Maghreb et de l'Est de la Méditerranée. Donc il faut qu'ils décident. En fait, c'est un choix politique extrêmement fort. Il faudrait enfin qu'ils décident de produire. Et produire avec les nouvelles contraintes qui existent, ça veut dire produire avec des approches agroécologiques. Ils ont aussi des sols extrêmement fragiles, bien plus encore fragiles que les nôtres. Donc c'est les techniques d'agroécologie, de conservation des sols, de protection contre l'érosion, qui sont les seules solutions. Sachant aussi que l'eau, qui est indispensable pour faire l'agriculture, en particulier en Méditerranée, va être de plus en plus critique et de plus en plus limitée. Donc arroser sans se poser plus de questions, ce ne peut pas être non plus la solution parce qu'il n'y a pas assez d'eau.
Est-ce que dans le sud, certains pays sont déjà en pointe sur ces questions-là, au sud de la Méditerranée ?
Disons pas vraiment. Disons Israël a montré que dans des conditions désertiques, on arrive à faire de l'agriculture, mais là aussi à coût de moyens très technologiques. Mais ça passe aussi par des méthodes, par exemple, d'irrigation au goutte à goutte, au lieu de l'arrosage classique qui gaspille d'énormes quantités d'eau. Donc ils ont montré qu'effectivement, dans des conditions très très difficiles, on arrive à produire. Alors après, il faut quand même qu'ils évoluent plus vers l'agroécologie que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Mais oui, il y a des pistes. Il y a des pistes au sud de l'Espagne, il y a des pistes en Italie, en Grèce. Mais bon, on a beaucoup d'exemples de stratégies qui marchent.
Alors, la deuxième table ronde que vous animez est consacrée au thème « Que manger de bon ?». Est-ce que ce qu'on appelle le régime méditerranéen, c'est toujours une réalité dans la Méditerranée, aussi bien au nord qu'au sud, ou est-ce qu'il y a une remise en question de ce modèle ?
Disons, il n'y a pas une remise en question, il y a un abandon progressif du régime et du modèle méditerranéen. Il y a 50 ans, il y a deux générations, c'était la façon de se nourrir normale en Méditerranée, qu'on soit à Marseille, au sud de l'Italie, en Grèce, en Algérie ou au Liban. Et puis il y a eu la mondialisation avec la généralisation des échanges et du commerce international qui fait que progressivement une autre culture prend le dessus sur la culture méditerranéenne qui est la culture anglo-saxonne nord-américaine avec sa cohorte de soda et de hamburgers que tout le monde connaît. Et donc c'est ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a eu progressivement un remplacement de l'alimentation traditionnelle méditerranéenne par cette alimentation de type industriel nord-américain. C'est toujours en cours. Et c'est en particulier en cours aussi bien au sud de la Méditerranée qu'au nord de la Méditerranée. Toutes les études le montrent. Donc en fait, on est dans une situation paradoxale où ce mode d'alimentation est en train de progressivement disparaître. En même temps, il a tellement de vertus, aussi bien culturelles que santé, qu'il a été reconnu en 2010 et par l'UNESCO inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. J'ai fait partie du groupe qui a soutenu ce projet au niveau de l'UNESCO. Donc on est là, voilà aussi, on est au pied du mur. C'est-à-dire que est-ce qu'on va arriver à sauver ce mode d'alimentation méditerranéen qui correspond à notre culture, à notre savoir-faire, à nos moyens de production, qui est très protectrice de la santé. De très nombreuses études scientifiques le montrent, et y compris en ce moment. Est-ce qu'on va relever ce challenge ou est-ce que la prochaine génération ne saura même plus ce que c'est l'alimentation méditerranéenne ?
Relever ce challenge, ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple adapter des recettes modernes, par exemple américaines, mais avec des ingrédients du régime méditerranéen. Est-ce que ça peut être une des façons de faire la synthèse ?
Disons que tous les moyens sont bons, je dirais, dans la situation où on est. Mais on a aussi se réapproprier notre culture. C'est-à-dire qu'il y a énormément de recettes traditionnelles, de plats traditionnels, qui sont absolument délicieux et qui sont en voie d'abandon parce qu'ils ne sont plus, entre guillemets, à la mode.
Par exemple ?
La salade de pois chiches, l'hummus que font les Libanais, qui est une excellente façon de manger des pois chiches, les panisses marseillais, c'est aussi une excellente façon de manger des pois chiches. Enfin, je ne parle que des pois chiches, là, mais on peut multiplier les exemples pour tous les aliments. C'est-à-dire qu'on a un patrimoine culturel formidable en Méditerranée. Tous les gens de l'Europe du Nord, ils viennent en Provence, pourquoi ? Ils viennent en Italie, en Grèce, en partie parce que l'alimentation les attire. Donc on a un patrimoine fabuleux, il faut absolument le transmettre aux nouvelles générations. Alors ça passe aussi par un certain savoir-faire culinaire, parce que c'est vrai qu'on ne va pas forcément le trouver dans les rayons de supermarché.
Alors, il y a quand même des grands chefs qui justement s'efforcent de travailler les ingrédients, panisse par exemple, pour les adapter dans des plats, mais ce que vous dites, c'est que ça n'a pas encore atteint le grand public.
Voilà, le problème, c'est que le grand public n'est pas assez informé sur ces problèmes d'alimentation méditerranéenne. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Par le moins, je suis en train de travailler depuis 2 ans avec le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur pour populariser l'alimentation méditerranéenne et son contenu et son intérêt, aussi bien dans les restaurants universitaires de toute l'Académie d'Aix-Marseille que dans tous les lycées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc l'année prochaine, il va y avoir un gros programme d'action à ce niveau-là, parce qu'il s'agit de réapprendre aux gens qu'est-ce que c'est l'alimentation méditerranéenne, en quoi ça consiste, et il faut passer à la pratique. Quoi. Et aussi que les chefs de cuisine cuisinent plus méditerranéen que standard, disons.
Il y a des actions déjà en cours, comme la semaine du goût. Est-ce que, pour vous, ça montre son efficacité, ce genre d'initiative, déjà ?
Je pense que la semaine du goût a un intérêt, parce qu'on parle du goût des aliments, et c'est vrai que c'est une des grandes qualités des aliments, c'est que ce soit goûteux. Hein. On a envie de manger des bonnes choses, on n'a pas envie de manger des mauvaises choses, ça c'est clair. Le problème, c'est que c'est trop, disons, orienté sur les produits industriels, et par exemple, pas du tout sur l'alimentation méditerranéenne. Alors que tout le monde connaît la valeur gustative des plats méditerranéens, qu'ils soient faits en Provence, en Italie ou au Liban. Quoi. Donc là, on a un challenge très très important à relever, mais il faut bien orienter la semaine du goût. Et je pense qu'elle n'est pas très bien orientée, en tout cas pour ce qui concerne les pays méditerranéens.
On va déjà devoir s'arrêter là, Denis Léron. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'INSERM. Vous intervenez donc samedi et dimanche, samedi, uniquement samedi à la Friche pour 2 tables rondes. Sommes-nous en capacité de nous nourrir et que manger de bon ? C'est à 10h30 et 14h30 à la Friche. Merci beaucoup.
10 minutes avec Cuisine en Friche.